maintenant un bon boîte de casse.
Et bonjour à toutes et tous, c'est un événement absolument incroyable qui nous arrive en plein Bruxelles. Nous sommes en compagnie de Hervé Marly et de Philippe Despalières, ou bien de Philippe Despalières et d'Hervé Marly. Ils sont indissociables par rapport à un anniversaire, c'est l'anniversaire des loups-garous. Bonjour Philippe.
Bonsoir.
Et bonsoir Hervé.
Bonsoir à tous.
Alors messieurs, replongeons-nous dans 10 ans en arrière. Qui êtes-vous il y a 10 ans, juste avant cette chose assez étonnante qui est les loups-garous de Tiercelieu qui fêtent leurs 10 ans en octobre 2011. Donc on est en 2001, qui êtes-vous? Je vais commencer par Hervé. C'est plus facile avec Hervé.
Il a passé énorme.
D'accord, donc allons-y Hervé.
J'étais un joueur bêta-testeur, voilà, on va dire c'était ça, il y a 10 ans.
Ça veut dire que tu évoluais dans un monde déjà de joueurs, tu avais déjà une connaissance ludique, avec qui jouais-tu?
Alors je satellisais autour de Ludo Délire, d'abord, et puis ensuite avec autour de Bruno Feduti, et après avec toute une histoire de week-end jeu, etc. Donc j'étais vraiment, on va dire, c'était qu'une histoire d'amour, mais totalement pure, pur amour.
Mais donc le fait de la rencontre avec Bruno Feduti, comment est-ce que ça s'est fait? Parce que bon, c'est quand même un tour de jeu qui, il y a 10 ans, bon, sortait déjà Citadel, qui était déjà assez connu.
C'était les photos de Citadel. Donc c'était en fait par l'intermédiaire d'un ami du CNRS, on faisait des jeux de rôle. Il m'a indiqué le plan d'enfer de Ludo Délire, que j'ai fréquenté mais très assidûment, très régulièrement. Puis ça a amené à rencontrer Bruno. Alors je ne sais même plus comment on dit non. Et tout ça pour dire que je suis rentré dans le monde du jeu grâce à eux et à Philippe. Hein. Donc je dis toujours que je suis arrivé à côté de la maison grâce à Gérard Mathieu. Bruno Feduti m'a ouvert la porte de la maison et Philippe Despalières m'a poussé dans le dos pour rentrer.
C'est ça.
Voilà, à peu près.
Okay. En deux mots, Ludo Délire, c'était quoi à l'époque?
C'était un truc énorme.
C'était monstrueux.
C'était la plus belle maison d'édition française de jeux de société moderne, qui a fait des jeux qui sont restés un peu dans la légende, hein, des jeux modernes, français, surtout français, ça c'est important, et qui était fondée par des artistes, et qui a été coulée par des artistes hein, d'ailleurs.
On n'entend plus beaucoup parler de Ludo Délire, effectivement.
Et qui avait fait un plan d'enfer qui était aussi une sorte de lieu mythique entièrement designé par Gérard Mathieu.
Gérard Mathieu qui est l'illustrateur de Cash and Guns, par exemple.
Par exemple, entre autres. Et qui est aussi illustrateur, Trigo, hein, dessinateur. Et Trigo aussi qui avait participé. Et le tout huilé par M. Gérard Delfanti.
Okay. Donc ça, c'est la situation avant l'idée de faire un loup-garou. Donc passons à Philippe.
Oh là là, là.
Qu'est-ce que... Il y a 10 ans, où est-ce qu'on en est?
Alors, il y a 10 ans, j'habite un petit village qui s'appelle Tiercelieu.
Tiens.
Ouais, avec ma chérie. Et je me suis éloigné de Paris pour monter un projet de maison d'édition. Je viens de publier un premier livre-jeu qui s'appelle Joyeux anniversaire, qui est l'archétype d'une fausse bonne idée, c'est-à-dire une idée extraordinaire d'un livre qui va pouvoir se vendre dans toutes les librairies et un jeu qui va pouvoir se vendre dans tous les magasins de jeux et qui devient la réponse des magasins de jeux, c'est je ne sais pas vendre les livres, et la réponse des libraires, c'est je ne sais pas vendre les jeux. Donc ça devient un succès d'estime dans un tout petit milieu, j'arrive à me rembourser et je suis en train de désespérer parce que j'ai quitté Paris pour me ressourcer, pour dire à 40 ans, je veux vivre de ma passion. J'en ai marre de faire des métiers autour du jeu. Ça fait des années que je publie des jeux, des années que je vis autour du milieu du jeu en faisant des métiers. Et là, je veux faire mon vrai métier, qui est auteur de jeux, et je voudrais éditer.
Donc ça veut dire qu'à l'époque, donc Bon Anniversaire, c'est un des prototypes qu'il y a dans la tête de Philippe Despalières?
C'est un des prototypes qu'il y a. Il y en a 10, 15, 20 à ce moment-là. Et Loup-garou arrive 6 mois avant que je décide de fermer ma boîte.
Okay. La boîte s'appelait déjà lui-même?
Oui. Okay.
Donc là, on est dans une situation où vous ne vous connaissez pas encore?
Si, on se connaît depuis 2-3 ans. Il est un charmant garçon, il fait partie des testeurs de Bruno. Moi, je vais au week-end de Bruno depuis 2-3 ans. On se rencontre aussi à Paris. Je me trouve invité par Bruno à des soirées test où il me dit « amène tes prototypes aussi », où il y a souvent Hervé. Et on copine. On aime bien le même genre de jeu. C'est un garçon qui a commencé comme groupie quand même. Donc il est avec moi vachement gentil, comme il est vachement gentil avec Bruno, etc. C'est quelqu'un qui aime les auteurs de jeux avant d'en être un.
D'accord. Bizarrement, je continue à les aimer d'ailleurs.
Donc c'est forcément agréable pour un auteur de jeux.
C'est flatteur.
C'est flatteur, mais en même temps, il a vraiment de... C'est quelqu'un qui n'est pas... Justement, ce n'est pas un vrai groupie, c'est-à-dire qu'il a des raisons, des arguments. Ça fait 20 ans qu'il connaît les jeux. Qu'il
c'est pas une pom-pom girl, quoi.
C'est pas une pom-pom girl. Il est là dans le garage au moment où on visse les boulons, etc. Voilà. Donc, il connaît l'envers du décor, quoi. Okay.
Donc là, effectivement, il commence à avoir une certaine connivence. Et puis, comment naît cette idée du loup-garou?
C'est à moi de parler, c'est ça?
On va dire ça. Ouais. Ça, j'alterne un petit peu.
Eh ben, par la rencontre, Bruno Feduti, Philippe Despalières, Hervé Marly. C'était à l'occasion d'un week-end à la Fontaine aux Loups, c'est ça que tu avais organisé.
Ouais. Et la Fontaine aux Loups, qui était le gîte de Tiercelieu, où j'organisais un week-end. Hervé me montre un jeu que lui avait montré la semaine d'avant, un embryon de jeu que lui avait montré la semaine d'avant Bruno, qui était le jeu Mafia. Il y a quelques petites parties qui se passent dans la soirée. Je suis fou de cette idée, de ce concept.
Alors c'est quoi Mafia à cette époque-là? Comment ça fonctionne?
On joue avec des cartes à jouer. Taisez-vous, faut pas le dire.
C'est pas breveté, ça, la carte à jouer?
Je sais pas, on joue avec des cartes à jouer. Il y a une dame de pique qui est un personnage. Non, je sais plus. Et puis, il y a des gens. Et puis, il faut essayer de... Il y a des méchants qui sont des espions communistes. Non, c'est chez les communistes. Des espions occidentaux. Il y a des gentils qui sont les gentils camarades communistes, etc. Les espions doivent tuer tous les communistes, les autres, machin, etc. Là-dessus, on passe le week-end ensemble, etc. Et là-dessus, moi, je suis fou de cette idée. Je bosse dans mon côté, j'en parle dans tout le village. En plus, le village, c'est... on est 30 copains, on fait des veillées, etc. Lui, de son côté, crac-crac.
Et ça veut dire quoi, ça, crac-crac?
Mais il fait aussi plein de choses de son côté.
Je fais une version du jeu aussi.
Ah oui, d'accord, donc ça n'a rien de...
Donc tous les deux, on travaille.
Ça veut dire, Philippe, de son côté, bosse un peu, et toi, crac-crac.
On travaille tous les deux de notre côté. On se retrouve sur des points communs et des points différents. Alors...
Il n'y a pas encore de loup dedans à ce moment-là.
Si, il y a le loup.
Ça semble évident dès le début.
Mais je pense qu'il y a une discussion ensemble par rapport à ça. Puis moi, je veux tout de suite retourner dans le Moyen-Âge. Okay. Je veux... Et d'ailleurs, au début, on n'est pas super d'accord. Lui, il est plutôt américain dans le genre le loup-garou pour ado. Et ouais. Moi, je le suis pour enfant.
Ouais, c'est peut-être un peu ça. Ouais.
Moi, je me bats pour l'enfant. Au début, lui, dans ses tentatives de dessin, il est un peu dégueu, il y a du sang.
Non, pas dégueu. J'aurais dit un petit peu, comment dire, viril.
Voilà.
Donc, il est plus dans la mairie trash avec Hervé Marly.
Voilà. Et moi, tout de suite, je veux travailler dans le conte. Je veux travailler dans l'abstrait.
Dans la légende,
le conte, etc. D'ailleurs, mes persos, c'est plutôt... genre la petite fille, le machin, etc. Et lui, ses persos, c'est plutôt des persos qu'on pourrait dire issus du jeu de rôle. Voilà, moi je suis pas jeu de rôle, je suis conte pour enfants, je suis petit chaperon rouge dans cette histoire, et lui, il est plutôt...
C'est marrant, parce qu'en fait, le genre de flûte, c'est plutôt une légende aussi.
Oui.
On est vraiment complémentaires, c'est hallucinant. Bon.
Et on travaille chacun dans son coin, on se retrouve, moi je vais le voir, je lui dis, je veux le faire, ce truc, je vais en faire une édition. Et comme c'est toi qui me l'as montré, je te propose de faire avec nous. Il me dit, c'est Bruno qui me l'a montré. Ben, je dis, ouais, on propose à Bruno. Bruno, il dit, jamais je ne risquerai un centime dans le jeu de société. Je suis un auteur et je resterai un auteur. Et puis, on bosse ensemble avec, comme testeur, pour l'essentiel, mes copains du village de Tiercelieu, mais aussi des copains de Bruno et tout ça. On arrive à faire une première édition. Bon, alors après, plein de temps. Après, on négocie entre nous, parce que chacun ayant travaillé dans son coin...
Parce que ça fait deux auteurs, avec deux auteurs et Philippe Despalières qui a sa société d'édition, donc j'imagine au niveau montage...
Là, on ne parle pas de société.
Non, ça ne fait pas deux auteurs, attendez, il faut quand même mettre les choses carrément. Ça fait un auteur, Philippe Despalières.
Oui, il est très modeste à cette époque-là.
Et un amateur...
Un amateur qui aimerait bien rentrer dans le milieu.
Qui aimerait bien être auteur et tout, mais...
Qui ne cracherait pas dessus, mais...
Il ne considère pas comme un auteur. Voilà.
À l'époque, j'arrivais à faire passer mes idées bien mieux parce que il respectait l'auteur accompli. Et maintenant qu'il vend du...
Maintenant qu'il vend du skull, il se la pète.
Eh ben, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur de lui dire, croisant mon expérience, voilà.
Donc,
à l'époque, je suis un peu le papa de la relation parce que je connais le monde du jeu. Lui, il connaît des auteurs, mais il ne connaît pas les mécanismes. C'est un peu moi qui monte le concept économique, marketing. Et je crois que je n'ai jamais été aussi bon en marketing de ma vie. C'était en 2000 et j'ai déjà imaginé ce que serait l'euro, quelle serait une bonne somme à l'euro. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Enfin, le format de la boîte, qui est quand même, c'est quand même nous qui avons inventé ce format carré.
Le fameux format kangourou.
Voilà. Et qui a été repris par des tas d'autres éditeurs qui est derrière. Et je ne sais pas combien de boîtes se sont vendues derrière, mais voilà, je l'ai fait en sciant avec ma scie une boîte d'élixir, cette histoire. J'ai eu pas mal d'idées à ce niveau-là. Je lui ai presque imposé un illustrateur aussi, mais il l'a tout de suite trouvé intéressant, qui était un ami qui n'était pas loin du village et qui m'avait dit qu'un jour, il voulait travailler et qui travaillait justement dans le conte pour enfants.
Rappelons son nom.
Alexios Tsioias, grec ayant vécu en Afrique, donc avec cette double inspiration, en Éthiopie. Avec du sang éthiopien, grec, enfin, un homme composite, capable de dessiner des loups-garous bizarres.
Ça ne se trouve pas partout.
Ça ne se trouve pas partout. Et qui, en m'envoyant... Au départ, on était plutôt sur le côté jeu de tarot, parce que quand on a cherché des personnages, on a pris nos jeux de tarot. Cupidon est né des amoureux du jeu de tarot. Et donc, au départ, on partait sur un format tarot pour en faire un côté justement ancré dans l'histoire, etc., avec ses côtés double sens du tarot. Et quand il m'envoyait des fax, à l'époque, il existait un truc qui s'appelait le fax.
C'était à côté du Minitel.
Ouais, le fax, c'était un truc qui envoyait du papier chez l'autre et tout. Et il m'avait envoyé un fax, et dans un rouleau de fax, il y avait un petit crobar qu'on appelait, nous, des crobards de téléphone quand on avait des cahiers autour de nos téléphones. Mais c'était pas les mêmes téléphones.
Il pesait 2 kilos.
Et ce petit crobard d'un centimètre sur un centimètre, c'était une esquisse de ce loup-garou. Et je lui ai dit, stop, arrête tout. On prend le crobard et on repart de là. On arrête tout ce qu'on a fait. On l'agrandit, on fait le loup. Je l'ai, c'est la carte, c'est la boîte. Maintenant, c'est cool. Le reste, c'est gagné.
Et moi, j'étais allé après chez... Ben, c'était chez Alexios, d'ailleurs, je crois, il me semble.
Ouais, ouais, ouais.
Où j'avais vu les... Non, je n'avais pas vu les fêtes. Il m'avait laissé la surprise, si je me souviens bien. Et il m'a dit, voilà, dans tous ces dessins-là, lequel tu préfères. Et le loup-garou, c'était évident, quoi. J'ai dit, mais ça, tout de suite. Le reste, bon, on peut en discuter, mais celui-là, c'est le truc. Et il n'y a qu'une deuxième fois où ça m'est arrivé, ce feeling, hein, pour parler français ou belge. C'est pour Skull and Roses.
La fameuse rose qui pique.
C'est évident, quoi.
Et Skull, on a travaillé. Alors là, justement, Skull, j'ai voulu qu'on soit ensemble dès le début. Et je lui ai dit, je ne chercherai un illustrateur que quand tu seras à côté de moi à l'ordinateur. Et on va surfer ensemble sur Internet.
Pas s'en servir, en fait. Hein. Quelqu'un qui tienne la souris.
C'est complémentaire. Hein.
Eh oui.
Voilà. Non, je voulais qu'on soit amoureux ensemble d'un illustrateur.
Alors, donc là, on est en 2001. Le jeu sort. Comment se lance la production? Donc, Philippe Despalières avait déjà de l'expérience au niveau de production de jeu.
Une expérience grande comme ça, ouais. mais oui, parce que j'ai travaillé chez un autre éditeur, etc. J'ai surtout des expériences de calcul, de dire si on n'en vend que ça, ça donne ça, etc. Donc, une prudence extrême.
D'accord.
Je l'avais montré entre-temps à d'autres éditeurs, d'ailleurs, en me disant, écoute, si on trouve un éditeur meilleur, tant pis, je ne le ferai pas. Ils ont tous refusé, y compris Asmodée, qui l'a refusé parce qu'on a fait une partie avec le patron et les employés, et les employés ont tué le patron au premier tour. Le patron a trouvé le jeu pas drôle du tout.
Ça, c'est mal.
Et c'est là où on s'aperçoit qu'on est vraiment complémentaires, hein, parce que il fallait absolument arriver à faire quelque chose quand même pour lancer la prod. Donc, alors faut pas le répéter. Ah mais quoi que je sais même pas si. Enfin, peu importe, la boîte, je pense qu'elle peut l'écouter maintenant. Où je travaillais déjà à cette époque-là, de boîte de pub. Je faisais toute la PAO sur les ordinateurs de la société. Putain, si je me fais à choper là.
Je peux dire le nom de la boîte.
Non, non, tu peux pas faire ça. Je n'ai pas Hervé et Marley qui parlent.
Et donc,
je faisais la PAO sur les ordinateurs de la boîte et l'impression sur les bécanes, hein, les imprimantes laser. Et après, j'allais imprimer sur des plats de couverture, machin truc.
Il a oublié de commencer par dire que donc on a fait une édition très limitée.
Ça veut dire combien
Et donc, imprimé à la, dans ma société. Et je venais avec les paquets de cartes chez
à Tiercelieu.
Il arrivait même à embaucher des gens du
patelin pour couper les... à faire travailler les enfants du village.
Pour couper les cartes.
Des petites filles, que des petites filles.
La, petite, ouais, la fille de François Bruel, qui est un autre illustrateur et qui habite aussi Tiercelieu.
Voilà. Une sorcière, mais je ne dirais pas qui.
Et donc, on a fabriqué des séries.
Et il avait dégoté un cartonnier qui faisait à la main les étuis.
Ouais. S'il vous plaît. On a acheté 200 boîtes en sky noir sur
qui
carton.
Nous coûtait le plus cher.
On imprimait des choses, on signait toutes les boîtes, on faisait un trou, on mettait un fil de coton dans la médaille du capitaine. Ouais. Et alors, le truc génial, c'est qu'en fait, c'est les personnes les plus importantes du milieu du jeu qui les ont achetées, on ne s'en rendait pas compte. Ouais. D'ailleurs, récemment, j'ai dit, voilà, on a parlé à la vente aux enchères, etc. Ouais. Tout le monde me sortait, moi j'ai la 32, moi j'ai la 140, etc. Ouais. Et on s'est aperçu que tous les gens qui sont devenus quelqu'un d'important dans le milieu du jeu avaient leur boîte collector.
C'était aussi des gens qui n'étaient pas encore éditeurs, qui n'étaient pas encore auteurs, c'était des passionnés aussi.
Les gars de Repoprod ont tous un collector.
Mais bizarrement, c'est qu'on a encore fait un truc qui n'existait pas en fait, je me rends compte maintenant.
Ouais.
Mais non, attends, des éditions limitées, si. Collector, numérotées, signées par...
Jungle Speed.
Non. Ouais. Non, collector avant que ça sorte.
Oui, alors nous, on est très forts.
C'est très impressionnant.
Voilà. On en a même fabriqué pour deux boutiques françaises, au nom de la boutique, 10 pour chacune. Et elles ont accepté de nous la payer un prix faramineux. Parce que nous, il fallait que ça nous rembourse. Puis après, eux, il fallait qu'ils les vendent. Enfin, je crois qu'ils les vendaient à l'époque 120 francs.
Ah oui, parce que nous, on était très raisonnable. C'était 75 francs.
Oui.
C'est pas mal.
Et en fait, donc ça... Oh, pardon. Donc ça, ça a amené un peu d'argent. Là-dessus, moi, à l'époque, j'étais encore salarié, donc j'ai amené un peu d'argent.
C'est surtout la notoriété.
Oui, surtout la notoriété.
Non, c'est pas l'argent.
Et bon, c'était pas mal d'avoir un peu de pognon.
Le problème n'était pas un problème d'argent. D'ailleurs, Asmodée m'avait dit, quand je voulais distribuer chez lui, parce qu'après, je me suis dit, distribuer tout seul, ça, je l'ai déjà fait, je le refais plus.
Bah oui, à cause de l'anniversaire.
Asmodée m'avait dit, si tu veux, je t'en achète 800 d'avance, comme ça, t'auras pas perdu tes sous. Je me suis dit, ils me prennent vraiment pour de la merde, hein, etc. Enfin bref, je passe un peu...
Ça veut dire quoi ça, je veux dire, allez, moi, je n'ai pas l'expérience d'éditeur de jeu, mais je me lancerai, on me dirait, j'achète tes 800 boîtes, je me dirais, ouais, c'est déjà pas mal.
Oui, mais j'en fabriquais 3000.
Ok, donc ça veut dire qu'en 2001, la logique, c'était déjà de se lancer sur 3000 parce que c'était plus économique de le faire ou bien que c'était un chiffre qui était
parce
déjà connu.
C'était le chiffre, c'est toujours bizarre les calculs d'éditeurs, c'est le chiffre entre si ça marche on va gagner des sous et si ça marche pas on n'en perdra pas trop. Et vu comme notre collection collector avait marché, j'avais la chance d'avoir une expo sur mes jeux qui était prévue. J'avais quelques jeux qui sortaient. À nouveau, il y avait un peu de regain d'actualité autour de mes jeux. La guerre des moutons était en préparation de sortie quelques mois plus tard chez Asmodée. Le musée d'ici les Moulineaux voulait faire une expo sur moi. Je me suis dit, allez, on y va. Dernière chance. Voilà.
Donc 3000 boîtes. Asmodée propose d'en prendre 800. Voilà.
Sorti le 15 octobre. Et je crois que le 10 novembre, il n'y a plus rien.
Et ça, c'est le fait de les vendre comme ça, c'est quoi? C'est les magasins qui les prennent? D'où vient cette renommée en dehors du milieu ludique?
Je crois que les magasins s'en étaient parlé, puisqu'on avait fait deux séries pour les magasins, que les vecteurs ludiques était... Il faut savoir que les vecteurs ludiques, à l'époque, ils étaient forts et ils avaient peu d'objets à véhiculer. Et donc, quand il y a un bruit qui partait, il partait à mort, quoi. Aujourd'hui, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui a une super idée d'un super jeu dont tout le monde faut jouer. Mais au bout de 2 semaines, plus personne ne parle de la même idée. À l'époque encore, il y avait ça. Dernièrement, c'est aussi à cette époque-là que j'ai rencontré Trick Track. C'est-à-dire que ces gens-là, on les a aidés et ils nous ont aidés. C'est-à-dire que Trick Track reconnaît que s'il n'y avait pas eu le loup-garou pour leur amener des clics, ils n'auraient pas été aussi célèbres. Et nous, on reconnaît que s'il n'y avait pas eu un site comme Trick Track pour faire le lien entre le monde grand public et le monde spécialisé, voilà. Puis après, nous, on a surtout à remercier les colonies de vacances, les centres de loisirs, les écoles. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas imaginé à ce point-là. C'était de se dire qu'on était un outil parfait pour les gens qui s'occupaient d'enfants.
Est-ce que ça veut dire quoi, cette constatation ? C'est que si le jeu sortait maintenant, il ne marcherait pas aussi bien ?
Forcément non, puisqu'il est déjà fait. C'est-à-dire que...
Là, on tourne en rond.
Non, on ne tourne pas en rond. Un jeu, ça fait partie du monde. C'est un être vivant comme les autres. Si tu me dis, Sarkozy, s'il arrivait maintenant et pas avant, je te répondrais, mais Sarkozy, malheureusement, il est arrivé avant.
Et ça a changé le monde ludique.
Garou a changé le monde ludique.
C'est clair.
Donc on ne peut pas le comparer à aujourd'hui. Je pense qu'il a eu une énorme importance pour le monde ludique. Bonne ou mauvaise, le monde décidera. Mais il a eu une énorme importance. On ne peut pas dire, et s'il sortait maintenant ? Ce n'est pas possible. Le jeu, c'est un être vivant, c'est de la mode, c'est comme de la fringue. On ne peut pas dire si Yves Saint-Laurent sortait sa robe, machin.
Le jean, si on le sortait maintenant, est-ce qu'il aurait même succès ? Bah, on ne sait rien.
Non, non.
Ok, on est à combien ? 1 500 000 boîtes ?
Alors, en additionnant à peu près, on pense être à 1 600 000 exemplaires du loup-garou de base, plus de 300 000 de Nouvelle Lune et près de 80 000 du village.
Pour se rapprocher de l'époque actuelle, Nouvelle Lune, c'est la première extension de loup-garou. C'est quoi l'histoire de Nouvelle Lune ? C'est anecdotique, on se dit ouais, on va le faire ou bien c'est... Nouvelle Lune, c'est un petit recueil de règles supplémentaires.
Alors, c'est trois choses. Un recueil de règles supplémentaires, 5 nouveaux personnages et surtout un paquet de 54 cartes événements que les gens n'ont pas compris que c'était ça qui était le plus important du jeu. D'ailleurs, à ce tableau, on s'est pas gêné d'aller dans les parties pour leur faire montrer. Même en mettant 3-4 cartes, ils trouvaient ça génial. Il y en a 54. C'est, à mon avis, l'essentiel de Nouvelle Lune, c'est là. Nouvelle Lune, c'est... On a refusé de faire des extensions pendant assez longtemps. Et on a accepté, on a finalement accepté par faire ça.
Accepté, c'était pas une proposition qu'on vous faisait.
Mais non, mais les distributeurs, ils sont là. Mais sortez-en des extensions, ça va marcher tout seul. Et nous, on est comme pour Skull, persuadés quand on a travaillé Loup-garou, qu'on a travaillé un bon format pour le grand public. Et que si on en fait trop, on va gagner sur les étudiants, sur les gros joueurs, mais on va perdre le cœur de notre cible, qui est cette population de 10-12 ans et leurs parents. Et donc, on n'est pas fan au début pour sortir des extensions. Voilà.
Ok. Nous voulons faire aussi un jeu abordable, hein, parce qu'on nous a souvent posé la question, pourquoi est-ce que vous avez mis des autocollants hein, pour les nouveaux personnages et pas un jeu ? Bah, c'est que si on avait mis des cartes supplémentaires comme sur la boîte de base, on aurait dû mettre toutes les cartes. Puisqu'on ne peut pas rajouter une carte neuve dans un jeu ancien. Hein. Et du coup, avec les cartes, les cartes d'extension...
C'est l'éditeur Hervé Marly qui vous parle.
ça faisait un jeu qui était beaucoup trop cher et on ne voulait pas. On ne voulait absolument pas faire ça. On voulait que ça reste accessible.
Mais d'où sont venues ces idées de Nouvelle Lune ? C'est-à-dire, il y a...
De plein de choses. D'idées qu'on a eues, d'idées qu'on a vues, entendues. On a des copains qui travaillaient à Tours et qui ont inspiré une grosse partie des idées. Et on est très fiers de les avoir eues. D'ailleurs, ils sont marqués. On marque toujours nos sources.
Et donc, on arrive un peu avant 2011. Et donc là, on a le village. Hervé, qu'est-ce qu'il y a... 2009, un peu avant 2011. Qu'est-ce qui a donné... Qu'est-ce qui a donné lieu à ces personnages, en fait ?
C'est pas vraiment les personnages. L'idée originale, c'est de donner une substance au village de Tiercelieu. Et après, tout le reste est découlé, les personnages, les bâtiments, et ainsi de suite, en fait. Comme l'a expliqué...
Au début, on devait se réunir pour faire un loup-garou luxe. Puis la crise de 2008 arrivant, on se dit, Oh, Loup-garou luxe, c'est peut-être pas la bonne idée, le luxe en ce moment. Et Hervé arrive en me disant, je sais pas, moi j'ai cru comprendre qu'il arrivait avec un espèce de Cluedo, de loup-garou Cluedo. Ayant déjà eu l'expérience de mon loup-garou cul, voilà. Je me foutais un peu de sa gueule, quoi.
Mais il y a un loup-garou cul qui traîne.
Mais
je ne suis pas présent.
Et donc il arrivait avec une idée de maison. On pourrait se déplacer dans les maisons, etc. Et voilà, je sais pas. Quelques minutes après, je lui fais non.
Medieval, c'est de la merde.
J'ai dit non. Et puis après, je prends une cigarette, deux cigarettes, trois cigarettes. Et je dis mais non, les maisons, c'est une super bonne idée. Et je lui dis mais comme on avait fait une autre variante qui était dans Nouvelle Lune ou qui était deux personnages, deux cartes personnages qu'on mélangeait. Un visible et un invisible. Et tout d'un coup, mon cerveau a fait ce que je ne sais pas quoi faire. Tout d'un coup, il a transformé ces deux personnages en la maison avec un rôle et la carte. Et, tout. Et j'ai dit à Hervé, ah !
Stop !
La maison, la carte.
Ça, c'était tout bon, quoi. Et ça, ça a aussi bien marché. C'est...
Non. On a l'impression...
Mais non, mais on est très fiers du village.
Oui, oui.
Ouais, franchement.
On a l'impression... d'avoir fait comprendre... Alors là, tu vois, tu sais, sur ces vieilles EN, d'avoir fait comprendre à nos détracteurs le chemin qu'on avait fait faire à cet objet qu'on avait emprunté à la mémoire et en disant, bah, tiens, voilà, et ça.
Alors, faisons...
On a eu beaucoup de copieurs sur le loup-garou qui ont fait croire qu'ils repartaient de l'original, alors qu'évidemment, ils repartaient tous de notre travail. Et qui disait, oh oui, non, nous, on n'a pas ce personnage-là, on a celui-là, etc. Enfin, et qui était à 20 cm de ce qu'on avait fait. Et le village, c'était aussi pour dire, ben, nous, si on retravaille, ben, on va faire plutôt ça.
Justement, est-ce que c'est lié aussi à cet accès à l'information On est à une époque aujourd'hui où on a la possibilité de donner son avis tout le temps. Est-ce que ça crée des détracteurs par rapport à un jeu ?
Avec le loup-garou, on n'a pas des détracteurs, mais on a à peu près sur 10 millions de joueurs, au moins 2 millions d'inventeurs de leur manière de jouer au loup-garou, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré ce qu'on aura transmis et ils en font leur propre jeu.
Mais ça, c'est pas négatif en soi.
C'est sublime. Non, c'est négatif quand... Non, c'est pas du tout négatif. Ce qui est négatif, c'est quand quelqu'un se pense le meilleur pour le faire. Je sais pas.
C'est ça que je veux dire en tant que détracteur, c'est faire varier une règle de jeu. Tous les auteurs de jeux sont nés de ça. Là où c'est étonnant, et c'est là que je me dis parfois que c'est trop d'accès à l'information, ou le fait de pouvoir dire son avis tout le temps partout, est-ce que c'est ça qui justement permet, qui donne la possibilité de se dire moi aussi je peux critiquer, même s'il y a finalement...
Ça c'est sûr que Internet... autorise énormément de gens anonymement à dire du bien ou du mal. Et d'ailleurs, ils ont remarqué qu'en disant du mal, on les repérait un petit peu plus. Donc, ils vont dire plutôt du mal. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est sûr que dans le monde du jeu, pour le moment, les auteurs ne se protègent pas. C'est que je peux dire qu'Hervé, le mois qui a suivi l'histoire de Skull and Roses, il n'ouvrait pas Trictrac. C'était fini. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe aussi que les gens viennent voir les auteurs de jeux parce que c'est les seuls qui ne se protègent pas pour le moment.
Qui ne se protègent pas, ça veut dire quoi ?
Du public. Okay. Un auteur de BD, vous n'allez pas lui parler comme ça aussi facilement tout le temps. Mm-hmm. Mais en tout cas, une star de cinéma, sûrement pas. Mm-hmm. Un écrivain, vous pouvez lui écrire une lettre, mais vous n'allez pas faire ça. C'est-à-dire que je pense, par le fait de notre activité qui est de jouer, de rencontrer les joueurs, d'être sur les festivals... on prend des claques beaucoup plus jolies, beaucoup plus fortes, beaucoup plus violentes, parce que ils sont perçus... Je sais pas comment dire... ils sont tous des auteurs. Nous, on le sait. On est l'auteur d'un objet avec lequel les joueurs sont auteurs d'une partie. Donc, effectivement, ils sont des auteurs. Ils sont l'auteur de leur partie. Mais laissez-nous faire nos jeux.
C'est quoi ? Vous considérez comme étant... Vous écrivez un synopsis et les joueurs qui sont en fait les acteurs de ce synopsis le mettent en valeur ?
Ça dépend des jeux. Hein. La plupart des jeux ne vivraient pas évidemment sans joueurs, hein, c'est clair. Mais il y en a certains dont la substance même du jeu est portée par les joueurs.
Okay. On est à la fois ceux qui laissent le plus liberté, si on nous comparait à des artistes, on est ceux qui laissent le plus de liberté au public, mais qui demandent beaucoup de travail pour être capable de laisser cette liberté au public. Je ne sais pas comment expliquer. Un écrivain, il écrit son papier, tu le lis ou tu ne le lis pas, tu sautes des chapitres, ok, tu le refermes, ok. Un réalisateur de film, il te dit en plus, ça va durer une heure et demie, tu vas être là, tu vas regarder là et ça et ça. Nous, pas tout à fait.
J'ai une métaphore.
Attention. Hop là.
J'ai une métaphore pour peut-être essayer de faire comprendre ce que l'on voudrait laisser passer comme message par rapport à auteur de jeu et joueur. En utilisant celle du peintre qui va dans un paysage et qui met un cadre vide, et juste le cadre posé sur un trépied et qui donc donne la vue sur le paysage. Et tu as 10 personnes qui regardent le cadre qui sont juste les uns à côté des autres. Le peintre, il a mis le cadre, mais chacun des des spectateurs voient un spectacle différent, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux faire comprendre, mais cette métaphore est là. Nous, on pose un cadre.
Ça veut dire que
si le cadre n'existe pas, le paysage n'existe pas, à la rigueur, entre parenthèses. Hein, donc, on a mis le cadre, on essaie de faire en sorte qu'il soit le mieux possible, et chacun va voir un petit peu la façon d'utiliser les choses qui sont dans le cadre différemment.
Ça veut dire qu'un détracteur, lui, il dirait « j'aurais pas mis le cadre là ».
Oui.
Mais c'est pire que ça, non. C'est pire que ça, c'est qu'il ne comprend même pas ce que c'est que le principe du cadre. Les gens qui ont essayé de faire un jeu... Les gens qui ont essayé de faire un jeu vraiment, hein, qui font cet effort-là, qui essaient de le tester autour d'eux, avec des amis, c'est pas ceux-là qui font les critiques les plus pourries. C'est pas ceux-là. Hein.
Ouais. Bien, fermons cette parenthèse-là. On est en 2011... un peu après le 15 octobre, et sort un jeu qui s'appelle Loup-garou 10 ans après ou 10 years after. C'est quoi ce Loup-garou 10 ans après ?
Alors, lui, il n'y a rien de changé. C'est un...
Il y a un cordon autour d'une médaille.
Exactement, mais dans le collector, monsieur, il y avait ce cordon autour d'une médaille.
Donc c'est juste pour marquer le coup.
C'est un bel objet à s'offrir pour se rappeler cette époque. Après, c'est une idée que j'ai eue de faire une carte qui avait la forme du loup-garou en rentrant de Nuremberg l'année dernière, en me disant, allez, soyons fous, faisons une carte qui ait la forme du loup-garou. Et puis je voulais faire des cartes épaisses, et je voulais qu'il y en ait plus, et puis je voulais qu'il soit dans ma nouvelle collection avec Skull, avec Boomerang, que tous les copains soient ensemble, quoi.
Et il y a les personnages de Nouvelle Lune, hein, quand même.
Et on voulait faire un one-shot, il y a les personnages de Nouvelle Lune. Apparemment, jusqu'à présent, on a fait 2 soirées où on l'a montré, les gens adorent. Mais c'est un objet, là, par contre. C'est vraiment un objet de design. Ne cherchez pas des nouvelles règles. Il y a juste les 5 personnages de Nouvelle Lune avec leurs illustrations qui étaient prévues, qu'on n'avait pas utilisées pour le luxe dont j'avais parlé tout à l'heure. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de nouvelles règles. C'est juste un objet pour se faire plaisir, pour offrir à quelqu'un qui aime le loup-garou, pour se l'offrir soi-même, pour marquer le coup, parce qu'on n'en refera plus. Il n'y en aura que 2000 pour toute la Belgique et c'est tout.
Terminé tout ça. Parfait. Messieurs, un grand merci pour ces 10 ans. Je pense que c'est clair et net. Continuez à parcourir le paysage avec votre trépied et vos jolis cadres. Une chose pour laquelle je vous rejoins clairement, et je crois qu'il y a une communauté derrière qui vous rejoint beaucoup, c'est que Loup-garou a changé le monde du jeu. Et pour ça, on est vraiment ravis de vous avoir rencontré, ravis de vous avoir écouté.
J'aimerais finir en disant quelque chose qui nous a émus tous les deux, Philippe et moi. On a des amis qui travaillent, enfin qui adorent les loups-garous, qui s'occupent un peu du site et qui nous ont envoyé une invitation absolument géniale, une invitation à leur mariage. Parce qu'en fait, ils se sont rencontrés grâce à une partie de loup-garou. Et ils sont devenus amoureux. Mais c'est pour ça qu'on fait les jeux. C'est pour ça, quoi. C'est génial, génial, génial.
Parfait. Merci, Philippe.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Et merci, Hervé.
Merci, cher ami.
Vous avez aimé ce podcast ? Alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast ? Alors continuez. Sur boitcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.